Comment faire pour inciter un grand nombre de personnes à collaborer à distance? Pour cela, il faut lancer un projet de collaboration massive et synchrone pour mobiliser l'intelligence collective, et cela demande un peu de méthode. Une méthode en quatre phases, plus exactement. Pour la décrire, je me suis tourné vers Serge Dautriff, CEO de SynapseCore, une jeune société française qui existe depuis 6 ans et qui a été classée dans les 60 technologies européennes les plus innovantes. Comme rien ne peut égaler la preuve par l'exemple, nous proposerons à nos lecteurs de participer à une expérience sur ce qu'ils pensent de l'innovation et de la disruption. Nous ferons ensuite un retour avec SynapseCore sur cette étude en format collaboration massive et synchrone. Rejoignez donc la discussion. Votre opinion sur les ruptures des 10 prochaines années vise mktg.info/rupture en minuscule. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié. Je suis avec Serge Dautriff. Serge, tu es CEO de SynapseCore et nous allons parler d'intelligence collective massive synchrone. Waouh, c'est long tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est quelque chose de très très simple. C'est en fait l'intelligence collective massive synchrone. Ça veut dire en fait de mobiliser massivement l'intelligence collective de centaines, de milliers de personnes. Synchrone, ça veut dire en même temps, donc unicité de temps. Et au même endroit pour résoudre des problèmes complexes, c'est-à-dire des problèmes multidimensionnels.
Donc ces problèmes complexes, on peut les résoudre grâce à ce logiciel à distance, et donc c'est particulièrement intéressant en cette période où on ne peut pas forcément se rencontrer pour faire des brainstorms ou des sessions de créativité.
Tout à fait, on peut effectivement résoudre ces problèmes complexes à distance, on peut le faire dans la langue de son choix, puisque la plateforme traduit tout en temps réel, on peut le faire avec un téléphone portable, une tablette ou un PC, puisque tout le monde n'a pas forcément un PC dernier cri, et puis on peut même aussi participer de façon anonyme, si jamais on veut vraiment avoir un débat très très libre, sachant que les débats sont modérés par les participants eux-mêmes, donc pour éviter que les débats partent dans tous les sens.
Alors on laissera d'ailleurs les lecteurs de Visionary Marketing essayer eux-mêmes l'outil avec un espace qu'on va leur réserver sur SynapseCore pour justement mesurer leur perception de l'innovation de ces dernières années suite à un débat qui nous a rassemblés il y a quelques temps sur LinkedIn. On va revenir sur les différentes phases d'un projet d'intelligence collective massive. Alors la première phase, c'est ce que vous appelez draft, c'est une phase de collecte, c'est un peu la phase d'idéation en fait.
Oui, effectivement, c'est la première phase d'une démarche qui en comporte quatre. La finalité, hein, c'est de permettre aux dirigeants d'une entreprise ou d'une business unit ou d'une fonction de mobiliser l'intelligence collective pour cadrer, de définir en détail, déployer et mettre en œuvre la stratégie et les projets de transformation de son entité. La première phase de draft, elle est basée sur le principe que sur un problème complexe, il y a pas mal de dimensions, et donc il va être intéressant de mobiliser une grande partie de personnes qui ont chacun une vue d'une partie du problème, et donc de collecter et de structurer de façon extrêmement précise l'ensemble de ces points de vue.
Oui, parce que c'est le challenge, c'est surtout quand on est dans le massif, donc on a jusqu'à des milliers de personnes, c'est que ça peut être vite foisonnant.
Oui, alors ça peut être vite foisonnant, d'où l'importance de la structuration. Là, il y a beaucoup d'outils d'idéation sur le marché. Ce qui nous différencie, c'est la très très forte structuration des idées qui sont remontées. Et je vais vous donner par exemple quelques exemples. Une entreprise du secteur pétrolier a mobilisé près de 10 000 personnes pour évaluer en l'espace de 30 minutes l'ensemble des processus de management de l'entreprise. Donc c'est vraiment cette idée de demander à chacun en tant qu'observateur dans son quotidien, quels sont, par exemple, les processus qui dysfonctionnent, qui lui font pas de temps, etc.
Donc c'est massif et en plus c'est rapide, quoi, parce que ça permet d'agir très rapidement sur ces phases de brainstorming et de structuration et d'arriver à un résultat qui peut être affiché très rapidement et en temps réel même.
Alors les résultats sont effectivement faits en temps réel, il y a des analyses en temps réel, Elles sont accessibles à tous les participants. On verra un petit peu plus tard ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Mais c'est vrai que ce qui va être important, c'est que la façon dont fonctionne notre solution, c'est qu'en fonction de qui vous êtes, de votre métier, de l'endroit où vous travaillez, de l'activité dans laquelle vous travaillez, eh bien le questionnement va pouvoir s'adapter de façon à être au plus près de votre réalité. Quand on pose des questions à grande échelle aux gens, il faut que ces questions soient simples et qu'elles soient pertinentes pour chaque personne. Et c'est le défi est ici.
Oui, c'est pas simplement un outil de questionnement, quoi. C'est un peu plus que ça.
Oui, on est très très loin de l'outil de questionnement, puisque effectivement, vous allez donc adapter les questions en fonction des sujets. Vous allez pouvoir créer des ateliers, hein, des ateliers qui n'existent qu'à partir du moment où des gens décident de s'attaquer à ce sujet. Donc les gens qui sont intéressés par ce sujet vont entrer dans cet atelier, ils vont produire des contenus structurés. Alors pour bien comprendre ce qu'est un contenu structuré, c'est un petit peu comme un post-it, mais vous avez structuré plusieurs aspects dans le post-it. Imaginez par exemple que vous impliquiez des gens pour faire une analyse des risques, et bien vous allez par exemple leur demander de façon très ouverte quel est le risque auquel tu penses, le ranger dans une catégorie. Donc là, pour le coup, on va raccrocher une donnée structurée. Est-ce qu'il est probable? Est-ce qu'il est important? As-tu une solution pour le mitiger? Est-ce que tu es prêt à t'impliquer? Et en fait, les réponses à ces questions vont être assemblées et postées dans le forum. Et là, on est vraiment dans cette phase de collecte, qui est vraiment la première partie du processus.
Ok. Donc, on a défini les pistes de travail, on les structure, c'est la deuxième phase.
Ouais,
alors,
alors effectivement, il y a cette deuxième phase, parce que dans l'exemple que je vous citais, on a récupéré 13 000 situations à risque avec des idées d'action en l'espace de 30 minutes. Donc vous imaginez bien que le problématique suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 13 000 idées. C'est là que le fait de fournir des analyses en temps réel, multidimensionnelles, à tous les participants a énormément de valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir décentraliser l'analyse. Plutôt que de faire appel à une intelligence artificielle qui, entre guillemets, trouverait avec des algorithmes plus ou moins efficaces les sujets importants pour celui qui a lancé le questionnaire, eh bien là, vous allez pouvoir, par exemple, organiser l'analyse, par exemple, par pays, en demandant au responsable de la France de regarder les sujets émergents sur la France, au responsable, par exemple, des activités construction, qu'est-ce qui ressort en construction, etc. Donc, vous allez pouvoir demander à des task force, à des groupes de travail, de faire ces analyses. Et à partir de ces analyses, donc, d'en faire des synthèses et de structurer des objectifs et des plans d'action. Donc la fin de cette deuxième partie qu'on appelle DITEL, après draft DITEL, c'est la partie exploitation de toute cette matière pour en proposer des objectifs d'action avec un consensus suffisant pour que ces actions soient ensuite actionnables.
Alors, on a collecté les pistes, on les a structurées. Troisième étape, il faut les trier. Non, c'est l'étape que vous appelez.
Alors la troisième étape, c'est l'étape qu'on appelle deploy, parce qu'une fois que vous avez toutes ces pistes et que vous les avez structurées, eh bien, il va falloir trouver les personnes qui vont être les mieux placées pour les mettre en œuvre. Alors là, le principe est assez simple. Hein. Vous avez donc construit des plans d'action dans la phase de design. Vous allez suggérer ou déléguer à quelqu'un un objectif ou un plan d'action. Cette personne va l'accepter ou pas. La différence entre les deux, entre suggérer et déléguer, est assez simple. Hein. Si vous déléguez, vous restez responsable, hein, au sens du RACI anglais, donc vous restez accountable. Si vous suggérez, c'est juste, tiens, je pense que tu devrais faire ça, la personne l'accepte ou pas, et dans ce cas-là, vous n'avez pas nécessairement de rôle. Voilà. Donc une fois que les gens récupèrent ces plans d'action dans la phase de deploy, vous allez donc avoir des plans d'action qui vont être portés potentiellement par l'ensemble des collaborateurs de l'organisation, avec un principe important, c'est que tout ce qui peut être géré localement va être géré localement, et que par le jeu des suggestions, ce qui va être important pour le terrain mais qui ne pourra pas être mis en œuvre par le terrain, parce que par exemple les équipes de terrain n'ont pas le temps, pas l'argent, pas les prérogatives, eh bien ces actions plus structurantes vont être suggérées vers les niveaux supérieurs de l'organisation, comme un processus de distillation. Et en fait, mécaniquement, les sujets plus compliqués, plus longs, plus structurels vont remonter vers le haut de l'organisation de façon à arriver au bon niveau de l'organisation, là où les leviers d'action sont les plus puissants, et en général là aussi où les impacts sont à plus long terme. Donc on a vraiment cette logique où on est à la fois tous témoins, ça c'est la phase de draft, on est à la fois tous partie prenante de l'analyse, c'est la phase de design, et on est tous partie prenante de l'action, c'est la phase de deploy.
Et puis, et à la dernière phrase, c'est, comme diraient les Anglais, c'est « when the rubber meets the road », c'est quand les choses arrivent véritablement sur le terrain, c'est la phase que tu appelles « deliver », donc c'est véritablement la mise en œuvre, quoi.
Exactement, c'est la phase « deliver », donc là, les objectifs ont été distribués, les plans d'action sont structurés, les ressources sont mobilisées, donc maintenant, il s'agit de mettre en œuvre, et alors la mise en œuvre, c'est-à-dire l'action collective à grande échelle, elle peut être extrêmement basique si chacun travaille dans son coin, mais en fait, si on procède comme ça, et c'est le cas malheureusement de beaucoup de projets de transformation, on va manquer les synergies et on va tout de suite se heurter à une problématique de coordination des chantiers. Alors c'est deux choses différentes, à la fois la coordination et les synergies. Imaginez que par exemple tu as un plan d'action à déployer en France par exemple pour améliorer la sécurité sur les échafaudages. Eh bien peut-être que tu vas avoir besoin de ressources financières particulières. Peut-être que tu vas avoir besoin, et ça sera la direction financière. Peut-être que tu auras besoin que les ressources humaines te fournissent aussi des supports de formation, etc. Donc en fait, chacun dans son plan va dépendre des autres. Donc il y a une vraie complexité de façon à aligner tout le monde sur des objectifs communs, sur des livrables communs. Mais maintenant, si moi je suis, par exemple, dans les équipes de formation de ressources humaines, eh bien, quand je vais voir tous ces plans d'action, c'est un petit peu comme si je regardais un sapin de Noël où il y a plein de boules de toutes les couleurs. Mais moi, les boules étant des objectifs. Moi, les seules boules qui vont m'intéresser, c'est les boules rouges, par exemple, parce que c'est les boules dans lesquelles il y a une dimension formation. Eh bien, je vais pouvoir, en fait, sur la plateforme, créer une image de ces boules rouges dans un espace qui va être dédié aux boules rouges, c'est-à-dire aux actions de formation, et cet espace, je vais le partager avec les équipes qui font de la formation. Ce qui va me permettre à mes équipes et à moi-même d'agir de façon cohérente sur l'ensemble de ces boules rouges. Donc ça, c'est vraiment l'aspect cohérence et coordination et synergie dans la mise en œuvre. Et puis après, évidemment, on a des tableaux de bord, évidemment, on a des alertes si les choses sont en retard, s'il y a des sujets qui glissent, etc., etc. Et avec une idée assez simple, c'est que les tableaux de bord qui permettent de piloter l'ensemble ne sont qu'une résultante. Ce qui est important, c'est de fournir à chacune des personnes qui va collaborer dans la mise en œuvre des moyens d'interagir de façon efficace avec les autres.
Alors, cette solution, on l'a parlé tout à l'heure d'un client qui était dans le traitement des hydrocarbures. Il y a beaucoup de tes clients qui sont dans le domaine industriel, on a dans le domaine de l'informatique aussi, ce sont plutôt des gros industriels en fait.
Alors pourquoi est-ce que, bon, d'abord SynapseCore est une société jeune, c'est une société française qui a été classée dans les 60 technologies européennes les plus innovantes, elle existe depuis 6 ans, on a mis 2 ans pour développer notre plateforme. Et jusqu'à présent, si tu veux, on s'est beaucoup concentré sur notre produit. On a fait un choix vraiment d'une stratégie très technologique pour proposer quelque chose de simple, mais permettant de gérer une grande complexité. Le développement commercial n'a pas été notre priorité jusqu'à présent. Et donc, pour construire ce produit, il n'y a rien de mieux que de le construire avec des clients. Et j'ai choisi, puisque j'ai maintenant plus de 50 ans et que je connais très très bien le secteur industriel, j'ai commencé par ce secteur parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un secteur que je connais bien. La deuxième, c'est que c'est un secteur aussi sur lequel on a une forte culture des projets complexes, de la complexité. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de scientifiques, beaucoup de gens qui ont cette habitude des sciences. Et donc, pour eux, c'est assez naturel de savoir qu'il y a des problématiques d'interface, qu'il y a des problématiques de dépendance, des problématiques de chemin critique. Ils le savent parce qu'ils gèrent des projets industriels sur lesquels c'est leur quotidien. Donc, il n'y a pas eu besoin de leur expliquer ce qu'était la complexité. Il n'y a pas eu non plus besoin de leur expliquer en quoi notre solution était meilleure que les autres. Parce que les autres, ils les connaissent. Dans ces grands groupes-là, tu imagines bien qu'ils ont des équipes digitales qui scannent tout le marché. Donc, en 10 minutes, ils ont compris, en fait. Et donc, c'était plus facile. Maintenant, on vient de démarrer la troisième phase de notre plan de développement et on se développe maintenant sur d'autres secteurs. On travaillait déjà à l'international, puisqu'on travaille déjà en Allemagne, on travaille en Russie, on vient de signer un contrat important en Afrique. Donc là, on a une double stratégie, à la fois de développement à l'international et de développement sur d'autres secteurs. Et pour faire ça et pour accélérer nos développements, on va notamment énormément travailler en partenariat avec des cabinets de conseil ou des consultants indépendants, des experts, des coachs, bref, des gens qui fournissent des prestations de services autour de la stratégie et de la transformation, et pour lesquels notre plateforme va être un amplificateur et un accélérateur d'impact.
Et alors, j'ai vu également que dans la liste des clients, on trouvait Capgemini, où tu as officié d'ailleurs, comme moi, et finalement, c'est applicable également dans le domaine de l'informatique.
Alors, c'est applicable dans le domaine de l'informatique. Capgemini, ça n'est pas que de l'informatique. Hein. Il y a évidemment une partie conseil. Il y a une partie outsourcing. Il y a beaucoup de choses dans ce groupe qui est un des leaders mondiaux dans le domaine de la transformation des entreprises et de l'opération de ces systèmes d'information. Ce qui est intéressant, moi, j'ai commencé ma carrière dans le conseil chez Gemini, hein, dans la partie stratégie, c'est que quand je suis rentré chez Gemini, et je crois que c'est toujours très très vrai dans le code génétique de cette entreprise, leur leitmotiv c'était « Results count on people matter ». Et Capgemini a vraiment cette culture, et je ne veux pas faire de la pub déraisonnable, ce n'est pas parce que c'est un client, peu importe, mais ce qui est important, c'est que c'est à la fois des gens qui ont une culture de la rigueur et du chiffre en matière de performance et transformation, mais c'est aussi une école de pensée avec les sociodynamiques, les sociostyles, avec l'école Bossard. C'est une école aussi de la sociologie des organisations très très forte. Et moi j'ai été beaucoup marqué par cet aspect, en fait, l'importance du facteur humain dans la transformation. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand on parle d'intelligence collective, beaucoup d'idées, de fonctionnalités, de façons d'approcher les sujets sont marquées par l'important, par l'idée très simple, très élémentaire, que chaque individu est important, chaque individu est un observateur, est un créateur, est un acteur. Et en fait, il faut créer les conditions pour révéler ses talents. Et j'ai souvent tendance à dire à mes clients, nos vrais clients, c'est pas vous, monsieur le président, monsieur le directeur de la stratégie, notre vrai client, c'est celui qui est en bas de la pyramide. C'est l'ouvrier, c'est la caissière, c'est le livreur. Parce que ces gens-là, si on arrive à les impliquer dans la transformation, s'ils arrivent à comprendre les enjeux, s'ils arrivent à apporter leurs idées, avoir la conscience d'être reconnus, respectés et d'être acteurs du changement, eh bien c'est toute l'organisation qui change. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une solution, une expérience utilisateur qui soit la plus simple et la plus accessible pour ces gens-là.
C'est un programme intéressant et qui permet de remettre en perspective le travail dans les entreprises, le travail de changement qui impacte tout le monde depuis le haut jusqu'en bas. Et pour le démontrer, rien de mieux que l'exemple, nous invitons nos lecteurs à répondre au questionnaire qu'on leur a préparé sur l'innovation avec SynapseScore. Merci Serge.
Merci Yann et bonne journée à tous.
Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion.
Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.